Je continue donc mes exposés. Et cette fois-ci, mon intention est de parler de la toute première Église, les toutes premières années de l'Église. Pour beaucoup de Juifs, la prédication évangélique fut une grande déception. Ils attendaient un Messie qui les délivrerait du joug romain. Ils eurent un piètre agitateur qui finit misérablement. Ils lui préféraient Barabbas qui lui prenait la révolte. D'un autre côté, drapés dans leur orgueil, sadducéens et pharisiens regardaient de haut les gentils, qui en revanche les détestaient, à l'exception toutefois de quelques prosélytes séduits par la grandeur du Dieu d'Israël. Chassés par la persécution d'Antiochus après la révolte des Maccabées, beaucoup de Juifs essaimèrent le long de la Méditerranée. Le livre de la sagesse fut rédigé en grec, qui était devenu leur langue. Sans le savoir, ces Juifs préparaient la route au christianisme. La naissance et les tout premiers temps du christianisme sont décrits avec précision dans les Actes des Apôtres écrits par saint Luc, dans un grec très littéraire, non sans quelques tournures araméennes, assurent les spécialistes. Ce livre, d'une lecture aisée et passionnante, comporte 26 chapitres. Les 12 premiers relatent les 11 premières années de l'Église jusqu'en 41, commencement de la persécution d'Hérode. Hérode était un affreux tyran qui, pour plaire aux Juifs, mit Saint-Pierre en prison et fit trancher la tête de Saint-Jacques le Majeur, le cousin du Christ. Une tradition assure qu'il avait fait auparavant un voyage en Espagne, ce qui n'est ni prouvé ni probable, comme on dit. Les 16 chapitres suivants, couvrent les années 42 à 62, avec le premier concile de Jérusalem et les missions de saint Paul. Certains repères appartiennent à l'histoire universelle, comme la mort d'Hérode Agrippa en 44. Les Actes ne sont pas un livre de légende. La prédication de Saint-Pierre après la Pentecôte donna le départ à une première communauté d'environ 5000 âmes. Les miracles étaient fréquents autour des apôtres. Saint Augustin les compare à l'eau que verse un jardinier au pied de l'arbrisseau qui vient d'être planté. Effectivement, ces miracles accroissaient l'idée de la foi dans les paroles de Saint-Pierre. Saint-Pierre prêche en ménageant son auditoire. Le Dieu de vos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré, renié devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance aussi bien que vos chefs. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Il y a là-dedans nulle accusation de déicide. La vie des premiers chrétiens était en quelque sorte double. Ce sont d'excellents juifs, scrupuleux, observant la loi jusqu'au dernier iota. Saint Jacques le Mineur était le premier évêque de Jérusalem. On disait que, à force de s'agenouiller, il avait les 10 genoux calleux comme ceux d'un chameau. À côté, il avait un culte privé, célébré dans chaque maison, où on se réunissait pour célébrer la scène. Par là, il n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Ils avaient pris à la lettre la phrase du Christ « Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive ». On sait maintenant que cette génération est le christianisme. Ils attendaient la fin du monde d'un jour à l'autre. Du coup, ils mettaient tout en commun, inutile de faire des réserves. Le service des pauvres fut élevé à la dignité d'un ministère sacré, le diaconat. On les appelait Galiléens ou Nazaréens. Ils se distinguaient des autres juifs par le fait que pour eux, le Messie était arrivé, mort et ressuscité, alors que les juifs l'attendaient encore. Toutefois, ils ne craignaient pas de rappeler aux juifs les infidélités du peuple d'Israël. Saint Étienne, un des premiers diacres, le fit avec passion dans un long discours relaté au chapitre 7 des Actes des Apôtres, terminant par ces mots. « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » En quelque sorte, y voyait la divinité du Christ. À ces mots, ajoute Saint-Luc, les Juifs présents frémirent de rage et se bouchant les oreilles se ruèrent sur lui. Ils avaient senti un blasphème. Le même jour, poursuit Saint-Luc, éclata une violente persécution contre la communauté de Jérusalem. À l'exception des apôtres, tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Saul, le futur Saint-Paul, ravageait la communauté, il pénétrait dans les maisons, et en arrachait hommes et femmes qu'il faisait mettre en prison. Ceci est relaté dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1-3. Le premier calme était fini. Après ces 10 ou 11 premières années de paix relative, les événements capitaux s'enchaînèrent. L'apôtre Philippe montra le chemin en Samarie. Le chapitre 8 lui est principalement consacré. À Samarie, il prêchait le Christ. À l'entendre parler, à le voir opérer des miracles, les foules s'attachèrent à la prédication, car les esprits impurs étaient sortis en hurlant de plusieurs possédés. Beaucoup de paralytiques et de boiteux avaient été guéris. Il baptisa sur son chemin le ministre de la reine d'Éthiopie, lequel lisait l'Écriture, il était donc peut-être déjà sympathisant. Le chapitre 9 des Actes des Apôtres marque un tournant décisif. D'abord la conversion de saint Paul. De persécuteur, il devint l'apôtre des gentils. Il discutait volontiers avec les hellénistes, dont il possédait fort bien la langue. Un deuxième événement capital est écrit au chapitre 10. C'est la visite, la visite de Saint-Pierre au centurion Corneille, centurion de la cohorte italique et craignant Dieu. C'est un ange qui demande explicitement à Corneille de convoquer Saint-Pierre, qui se rendit donc à Césarée. Pendant le trajet, eut lieu le troisième événement capital, le songe de Saint-Pierre, qui vit descendre du ciel une grande nappe remplie de tous les quadrupèdes et reptiles de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Et une voix lui disait « Allons Pierre, tue et mange ». L'apôtre répliqua « Jamais de la vie, Seigneur, jamais je n'ai mangé rien de profane ni d'impur ». Mais la voix replie de nouveau « Ce que Dieu a déclaré ce que Dieu a déclaré pur ne le tient pas pour impur ». Après cet intermède, Saint-Pierre se rendit chez le centurion qui le reçut comme avec une très grande compagnie et avec un très grand respect. Il s'est incliné devant lui. Saint-Pierre a dit « Non, je ne suis qu'un homme. Il ne faut pas m'adorer ». Pierre accepta de rentrer chez lui, bien que ce fût interdit aux Juifs d'entrer chez les païens. Il disait « Dieu m'a appris à ne considérer personne comme profane ou impur ». À la demande du centurion, Pierre exposa la doctrine chrétienne lorsqu'eut lieu l'événement capital. Pierre parlait encore, dit les Actes des Apôtres, Pierre parlait encore lorsque le Saint-Esprit tomba sur ceux qui écoutaient sa parole. Profonde fut la stupeur des fidèles circoncis en voyant que le don du Saint-Esprit était répandu même sur des païens. Alors Pierre reprit la parole. « Peut-on, dit-il, refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Christ. Ces trois événements, dispersion des chrétiens à la suite du martyre de Saint-Étienne, vision du drap sur l'impureté des aliments et baptême des païens, plus la conversion de Saint-Paul, bien sûr, marque le début du côté public du christianisme. On pourrait dire « l'Église enfant commençait à marcher ». Il restait à faire admettre tout cela par l'ensemble de la communauté de Jérusalem dirigée par Jacques le Mineur, dont la majorité des membres affirmait « si l'on n'est pas circoncis selon le rite mosaïque, on ne peut être sauvé ». Il y eut, dit-on dans les Actes des Apôtres, une vive altercation. L'ensemble des apôtres se réunit sous la présidence de Pierre. Ce fut le premier concile de Jérusalem. Saint-Pierre insista sur l'épisode du centurion Corneille. Barnabé et Paul sur les miracles que Dieu avait opérés par eux au milieu des païens. Alors, Saint-Jacques rappela un texte du prophète Amos qui avait annoncé que le reste des hommes et toutes les nations, avaient annoncé que le reste des hommes et toutes les nations devaient être appelés à chercher le Seigneur. Ils ont suivi le décret de Jérusalem qui abolissait l'obligation de la circoncision et demandait seulement de s'abstenir de la fornication, c'est-à-dire du commerce avec des prostituées attachées à certaines divinités païennes, et aussi des viandes offertes aux idoles, de la chair des animaux morts étouffés et du sang. Si la première interdiction a été maintenue, les interdits alimentaires consentis aux judéo-chrétiens, qu'on appellera par la suite les ébionites, seront bientôt abandonnés. Saint Paul y apporte juste une nuance, ne faites rien qui soit pour votre frère une occasion de scandale. Le chrétien se doit de respecter son frère. Cela dit, le christianisme était maintenant séparé de la synagogue, non en raison de nouveaux dogmes, mais dégagé du carcan de règles qui, il est vrai, ont permis le maintien de la personnalité juive pendant 2000 ans, mais qui étaient devenus complètement superflus. On ne rendra jamais suffisamment grâce à cette libération que nous a apportée le Christ. que l'on pense à la purification de la Vierge. L'Immaculée avait été déclarée impure selon la loi. Que l'on pense à ce rabbin qui ne pouvait accepter aucune invitation à déjeuner, il acceptait seulement de prendre un café à condition d'emporter sa tasse dans la poche. Que l'on pense à ce pauvre chauffeur de taxi, obligé d'offenser Dieu, comme il disait, car ses supérieurs lui avaient ordonné de mener une personnalité à l'aéroport un jour de sabbat. Les 10 supérieurs se sentaient justes. Ces faits sont garantis exacts. De toutes les religions, le christianisme est de loin le plus libre. Saint Augustin le prêche dans sa célèbre formule « Aime et fais ce que tu voudras ». Le tout est d'aimer en vérité. C'est sur la connaissance de cette vérité que nous devons porter tous nos efforts.